poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille !
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane. Bienvenue dans Deux boules vanille, votre rendez-vous radiophonique estival sur Canal B, tous les jours de l'été à 16h30 et en rediffusion le lendemain matin à 8h30. Deux boules vanille, c'est un programme éclectique et protéiforme concocté par les salariés et des bénévoles de Canal B. Aujourd'hui, je vous propose la suite du programme initié la semaine dernière autour des femmes, de leurs droits, des médias et de la démocratie, avec l'écoute du deuxième podcast produit par L'Onde Porteuse et le Conseil économique, social et environnemental le 25 février dernier. Ce jour-là, les deux structures ont organisé et animé l'événement Femmes et médias, les rencontres de l'égalité. Au programme des tables rondes, des reportages, des duplex, des chroniques et des débats pour décrypter les liens entre droits des femmes, médias et démocratie. Canal B est associé à l'événement, c'est pourquoi je vous propose d'écouter les 4 épisodes enregistrés ce jour-là. Dans l'épisode 2 du jour, intitulé « Les mots ne sont pas neutres », la journaliste Julia Foyce et le fondateur de L'Onde Porteuse, Benoît Bouscarel, reçoivent Johanna Luyssen, journaliste à Libération, et Swad Belhadad, journaliste romancière et dramaturge, conseillère au CESE, pour mettre l'accent sur l'importance de la précision du langage médiatique pour parler des violences sexistes et sexuelles sans les minimiser. Ainsi, en France, longtemps, le mot « féminicide » a été considéré comme tabou, notamment par les journalistes. Cet échange sera suivi du documentaire « Sans état d'âme, la démocratie à l'épreuve du sexisme » produit par Lynn Baudrier et Camille Curnier dans le cadre de leur Master 2 « Journalisme, reportage et enquête » à Sciences Po Rennes.
Femmes et médias est un podcast en 4 épisodes enregistré le 25 février 2025 au Palais d'Iéna à Paris à l'initiative du Conseil économique, social et environnemental. Il est produit et réalisé par L'Onde Porteuse. Femmes et médias, épisode 2.
Femmes et médias, les rencontres de l'égalité.
Les mots ne sont pas neutres.
Julia Foyce. Benoît Bouscarel.
On l'a dit, on va s'intéresser aux mots dans cette deuxième partie de notre émission, toujours en direct du Conseil économique, social, environnemental. Ces mots qui peuvent aller jusqu'à tuer, à ces autres mots qui ont manifestement parfois du mal à sortir, qu'on n'utilise pas. L'histoire nous a enseigné que la catastrophe commence toujours par les mots, explique le CESE dans son avis du 12 février dernier sur la banalisation de la violence dans notre société et sur les moyens d'y faire face. On y reviendra dans un instant.
On va d'abord poser très simplement les données du problème avec cet extrait d'une interview de Caroline Dehaas. C'était sur Brut il y a quelques années.
Imaginez, vous êtes en soirée avec des potes et là, vous avez une copine qui dit « Oh là là, hier, dans le métro, j'ai été victime d'un attouchement. » Et puis une heure après, vous avez une autre copine qui dit « Oh là là, hier soir, dans le métro, j'ai été victime d'une agression sexuelle. » Sur laquelle des deux expressions, vous vous dites « Waouh, il y a un truc vraiment grave qui s'est passé. » En fait, sur la deuxième, sur l'agression sexuelle. Parce que ces mots « agression sexuelle » qualifie les choses de manière juste. Le mot « attouchement » va avoir tendance en fait à euphémiser la réalité, à la faire passer pour moins grave qu'elle n'est en réalité.
Voilà, extrait d'une vidéo de Brut qui avait eu le mérite de poser effectivement clairement le débat il y a quelques années, avec des mots simples hein, pour le coup, ceux de Caroline Dehaas, fondatrice d'Oser le féminisme notamment.
Invitée de cette émission, Johanna Luyssen, autrice, chef adjointe au service Société de Libération. Bonjour.
Bonjour.
Et Swad Belhadad, également journaliste, écrivaine et conseillère au CESE au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Caroline Dehaas le dit, on euphémise toujours les violences sexistes et sexuelles parce qu'on refuse toujours d'en prendre la véritable mesure, d'en comprendre l'ampleur, selon vous ?
J'en suis absolument convaincue.
Ouais. On continue de le faire aujourd'hui.
Ah ben, je vais prendre un exemple très récent. On est en ce moment, il y a deux grosses affaires de violences sexuelles qui sont les affaires Betaram et le procès Skwarnek. Si vous regardez sur Google Actualité et vous tapez le mot abus sexuel, vous allez voir un très 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 grand nombre d'articles. Ce qui veut dire que le terme abus sexuel, qui ne veut strictement rien dire sur le plan pénal, est encore utilisé en 2025 et ce malgré des milliers de préconisations, enfin prenons la une qui est présente aujourd'hui, a fait quand même énormément de recommandations sur les mots à utiliser. En 2025, on a encore des milliers d'articles, y compris au sein de mon propre journal. J'ai repéré ça, j'étais effarée, pardon. Mais j'ai fait un mail hier pour signaler à mes collègues que non, il fallait pas mettre abus sexuels dans la titraille. Je vais utiliser des mots un peu concrets de journalisme, mais en tout cas dans un sous-titre d'un article. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc oui, très clairement, on voit bien que c'est une réalité qui ne passe pas parce qu'elle est mal nommée.
Parce qu'on ne veut pas, toujours pas l'affronter.
Bah oui, absolument. On voit bien. Alors là, si je reprends les exemples de Betaram ou de Squarneck, les deux affaires quand même racontent une certaine difficulté à appréhender des choses qui pourtant ont été dites au fil des années. Enfin, c'est ce que nous enseignent un peu ces deux affaires. Donc oui, très clairement, il y a une question de prise en compte.
Pas correctement le problème. On risque pas de le résoudre. Oui,
absolument.
C'est dingue ce que vous venez de dire. On peut être donc journaliste à Libération, collègue de Johanna Luisen, et quand même utiliser ces termes. Non, mais comment est-ce que ça s'est passé justement la discussion après
mal.
Non, mais quelles ont été les réponses peut-être, si vous en avez eu déjà, je sais pas, de vos collègues qui avaient utilisé ce terme.
Ben, ils m'ont répondu oui, bien sûr, on sera plus vigilants.
C'était oups, on n'a pas fait exprès ou.
C'est un peu on n'a pas fait exprès, mais honnêtement, je comprends pas parce que, enfin, si je comprends que trop bien, malheureusement, mais ce qui est terrible, c'est de dire, mais comment nous qui on a parlé tout à l'heure avec Salomé Saquet de la Charte de Munich, comment on peut continuer à employer des mots qui sont impropres, qui ne qualifient rien? Comment on peut, et ça, on voit ça quand même quasiment exclusivement sur la question des violences sexistes et sexuelles, comment ça se fait qu'on peut passer à côté d'une réalité en la sous-qualifiant systématiquement? Ça, c'est une vraie question.
L'habitude, ouais.
Voilà.
Au moment où naît Oser le féminisme, au début des années 2010, hein, qui marque un peu le début de cette quatrième vague féministe, vous êtes journaliste au magazine Cosette, et à Cosette, on parle de dissociation, on parle de sidération. Vous êtes, je crois, à peu près les seuls à traiter des violences sexistes et sexuelles. Dans le reste du paysage médiatique, on est comment sur ces questions-là, il y a moins de 15 ans, hein?
C'est la, honnêtement, c'est quand même une sorte de préhistoire absolue. Pour en revenir à Libération, parce qu'il y a l'affaire DSK, mais même avant, il y a quand même l'affaire Trintignant et le féminicide de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. On est quand même là aussi à la préhistoire totale en matière de traitement de ces sujets-là. Et pour le coup, mon journal Libération a été pionnier puisqu'il a fait un recensement des victimes de féminicide par la plume de Blandine Grosjean qui a fait un dossier absolument remarquable dès les années 2000. Et ça, pour le coup, c'était vraiment pionnier. Donc, comme quoi, il n'a pas fait que des choses. voilà. Mais effectivement, à cette époque-là, dans les années 2010, on est vraiment à un moment de l'histoire où, moi, j'ai envie de dire que tout débute. C'est-à-dire que, on est aussi, et je crois que c'est quand même concomitant, à un moment du féminisme qui s'articule différemment, où on a quand même en même temps la création de La Barbe. On parlait d'Alice Coffin tout à l'heure, mais elle avait créé cette association avec une sorte d'agit-prop un peu très très intéressante. On a évidemment la création d'Oser le féminisme aussi à ce moment-là, parce qu'on vient de voir Caroline Dehas, c'est quand même toujours les mêmes personnes qu'on voit. Mais parce que ce sont des personnes importantes. Et puis mine de rien, ben il y a la création de ce magazine Cosette qui vient un peu raconter le sexisme ordinaire, ce qu'on fait plus tard beaucoup de journaux et de titres de presse, mais à l'époque c'était vraiment novateur. Et quand arrive la déflagration de l'affaire DSK qui est encore mal saisie par la presse, j'ai envie de dire traditionnelle. Ben effectivement, on n'est quand même pas très nombreuses à prendre le parti de raconter ce que sont les violences sexistes et sexuelles et de, voilà, de raconter sous cet angle-là.
À l'époque, on parle de gauloiserie à la française, ça, on l'entend toujours. On parle de troussage de domestiques. Oui. On parle de drague lourde, alors très très lourde, mais ça c'est pareil, on l'entend à chaque affaire, ou presque, de violences sexistes et sexuelles. Le vocabulaire, question fondamentale, parce qu'il structure et qu'il même nourrit et crée la pensée, mais beaucoup, beaucoup de temps à bouger.
On va accueillir Souad Belhadad. Bonjour.
Bonjour.
Souad, puisqu'on parle de vocabulaire, de mots dont on espère parfois que ils vont peut-être en n'existant pas faire disparaître les réalités qui seraient censées être amenées. Souad Belhadad, vous êtes journaliste, écrivaine. Vous êtes dramaturge et conseillère du CESE, membre aussi de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. On parle beaucoup de Trump aux États-Unis, on en parlait il y a un instant, qui ambitionne ces temps-ci de faire disparaître certains mots comme changement climatique, du vocabulaire scientifique ou simplement même de sites internet de l'administration fédérale américaine. On pourrait également évoquer le golfe du Mexique. Nous aussi, Swad, j'ai l'impression qu'on efface aussi parfois certains mots.
Nous aussi en France. Et là, comme on m'avait dit, une chrono 3 minutes sur l'analyse d'un mot. Le mot qu'on a choisi, c'est un non-mot. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mot parce que la société de tout pays, mais plus particulièrement notre presse française n'aimait guère. Et donc, c'est un mot qui est devenu inexistant. Longtemps écarté, banni. Donc, pour pas faire de vagues, ou comme disait Salomé Sacquet, pour ne pas paraître militante, je vous propose de remplacer dans cette chronique ce non-mot par un bip-bip. Ce mot donc de bip-bip avance masqué depuis des années, que dis-je, des siècles, puisqu'il n'apparaît dans notre pays qu'au 19e siècle, et il n'est entré dans le Petit Robert qu'en 2015. 2021, ça va, soit n'abuse pas, 10 ans, ça va. Ce mot de bip-bip, c'est aussi beaucoup planqué derrière celui de crime passionnel, tragédie conjugale, drame de la jalousie. Il a aussi été planqué derrière le terme plus sophistiqué de uxoricide, du latin uxor, uxoris, épouse. Un juriste notoire de la fin du XVIIIe précise du reste que le pape Étienne V se désolait de l'atrocité du crime d'uxoricide et exigeait du mari qui avait uxorisé son épouse l'expiation de ce mari le reste de son existence. Au CESE, nous pourrions avoir une idée de préco qui serait de mettre des papes Étienne VII dans tous les CA des mouvements MeToo. Enfin, c'est aussi un non-mot qui a beaucoup voyagé, beaucoup berlingué de par le monde avant d'être admis sur les claviers de la presse française. Il est d'abord passé par les États-Unis où une Américaine en proposait une définition claire. Crime commis sur une femme parce que c'est une femme. Puis, il a bourlingué en Angleterre dans les années 80, une Britannique, une Sud-Africaine l'ont popularisé. Et puis, au Mexique, au Chili, pays qui ont osé non seulement le prononcer publiquement, bip, 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 mais en faire un discours politique pour lutter contre. L'enjeu était majeur. Plus de 1440 meurtres de femmes en 10 ans. Donc, en Amérique latine, la réalité de ce non-mot n'était pas une non-réalité. Et puis, il est arrivé en Italie, qui a carrément fait une loi spécifique en 2013, la loi bip-bip. Enfin, la création de l'ONU Femmes a officiellement adopté ce fameux bip-bip en résolution. En France, la presse jugeait ce mot trop militant, trop idéologique, trop partisan. Donc, la presse préférait, disait-elle, rester neutre. Jusqu'à ce que les chiffres prennent le dessus sur les mots, même silencieux. Allez, juste un petit exemple. Le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, plus de 50 000 femmes et jeunes filles tuées par des ex-conjoints ou des membres de leur famille dans le monde en 2023, soit environ 140 victimes par jour. Dans toutes les régions du globe, en France, en 2023, seulement 115 victimes. Les chiffres ont donc eu le dessus sur les mots et celui de féminicide n'a plus été tabou. Sa réalité le précédait de si loin et oh, surprise, quand on l'a enfin dit, quand on l'a enfin écrit, vous savez quoi ? Ce mot n'a tué personne, en fait.
Un mot, Swad, quand même, dont l'usage est encore parfois visiblement difficile pour certains.
Oui, l'analyse, en fait, du silence de ce mot, et ça a été dit avant, c'est l'analyse d'une immense peur. C'est la peur de nommer, c'est celle d'affronter, c'est celle de décider de réagir. Car si vouloir sauver des vies, nos vies, semblent trop partisans, trop militants, trop idéologiques, alors réjouissons-nous que notre déclaration des droits de l'homme, qui inclut aussi ceux des femmes, soit partisanes et militantes. Et ce sera pareil, chers amis, sur ce mot de backlash, retour de bâton. Certains voudraient le nier, encore une fois le bip-bipé, mais la réalité aura raison de ce déni. Méfions-nous des mots que l'on tait, parce qu'ils font beaucoup de bruit lorsqu'ils reviennent. Mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus. Bien nommer l'égalité, la justice, c'est miser sur moins de malheur et, chiche, plus de bonheur même. Et ça, c'est une citation de nous, des DFE du CESE. Merci Agathe.
Merci justement au CESE, puisque vous êtes conseillère au CESE. Vous venez de travailler avec votre collègue Marie-Claude Picarda sur la vie rendue il y a quoi 15 jours, c'est ça à peu près, hein, la banalisation de la violence verbale, de la banalisation de cette violence jusqu'au discours de haine, décrypter, mieux agir pour restaurer le lien social, un avis que je vous conseille, dans lequel il est préconisé notamment une meilleure identification, une meilleure prévention et puis aussi des sanctions à l'encontre de la violence verbale. Et vous préconisez l'utilisation d'un verbomètre, la mise en place d'un verbomètre.
Oui, alors on a plusieurs préconisations. C'est important de dire que c'est un avis qui a voulu s'attarder sur les effets. Le CESE, c'est vraiment la maison de la société civile, donc ça nous importait pas seulement de nous attarder sur les causes de la banalisation de la violence verbale, du racisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme, du sexisme, mais vraiment des effets. Qu'est-ce que ça fait physiquement, mentalement, psychiquement? Et donc, une des premières précaux, c'est la documentation. Il faut vraiment qu'on ait des chiffres et des recherches sur cette impensée de notre société et pourtant cette réalité. Et puis le verbomètre, c'est aussi parce qu'effectivement, il y a cette banalisation qui fait que maintenant, grosse P, point de suspension, ça paraît effectivement très courant. Et il est important au bout d'un moment de pouvoir remettre le curseur de qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui n'impacte pas, etc. Voilà.
C'est avec l'affaire Daval que le mot féminicide s'est mis à circuler dans les médias et donc dans le grand public. Au moment où Alexia Daval disparaît, on est à l'automne 2017, et juste après, période assez riche en matière MeToo, juste après explose l'affaire Weinstein, la tempête MeToo déferle dans le monde entier. Est-ce que vous diriez que entre Daval et Weinstein, entre les deux balances ton porc, votre pratique journalistique a changé? Est-ce qu'il y a un avant et un après?
La mienne, pour être honnête, pas tellement. Parce que, en vérité, moi, je suivais ces sujets et je les portais depuis des années. Mais j'ai vu autour de moi la pratique de mes confrères, surtout mes confrères, changer. Je crois qu'à un moment donné, les rédactions se sont rendues compte que, en fait, les questions de VSS pouvaient faire partie des grands sujets. Puisque pendant des années, ils se sont employés à ghettoiser ces sujets et à en faire des non-sujets. Donc évidemment, sur la question des... Voilà, la question des féminicides, effectivement, c'était un traitement journalistique absolument ahurissant. Je crois qu'on n'a pas idée de la manière dont on parlait des faits divers il y a, je sais pas, 30, 40 ans. À titre personnel, je travaille sur un féminicide de 1980 et la revue de presse est absolument terrifiante, au point que le nom de la victime n'est pas dans les articles très très longs qui parlent. C'est le cas du philosophe Louis Althusser assassinant son épouse Hélène Rittmann. Et il est souvent pas question du nom de la victime, et il est question d'un philosophe en enfer et de la fin de la carrière du grand homme. Donc on voit bien que quand même, entre 80 et 2025, fort heureusement, les choses ont changé. Mais quand même, je pense que la bascule MeToo, la bascule Weinstein et la bascule 2017 a quand même fait qu'effectivement, au sein des rédactions traditionnelles, de la presse traditionnelle, je sais pas comment la qualifier, c'est en tout cas, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense, il y a eu une prise de conscience de, d'accord, ces sujets sont traitables, intéressants. Je pense qu'il y a aussi une petite forme d'opportunisme. Ces sujets sont bankable, ces sujets intéressent, ces sujets font vendre. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la presse sont aussi bien souvent des entreprises, hein, quand même le dire. Mais voilà, en tout cas, il y a, et évidemment poussé par les féministes qui ont pas arrêté depuis des années, il y a eu une prise de conscience, et donc forcément dans cette prise de conscience, quand même une manière, essayer de nommer les choses autrement, essayer de les quantifier en ce qui concerne les féminicides, parce que nous à Libération on avait fait un décompte, ouais, et un gros dossier sur les féminicides aussi à l'été 2017, donc juste avant l'automne, ouais, MeToo. Donc voilà, il y avait des choses comme ça, mais encore une
et
fois.
Et est-ce que dans votre pratique journalistique, dans votre métier véritablement de tous les jours, est-ce que cet argument de la neutralité
vous l'entendez encore? Est-ce qu'on vous demande de choisir entre votre militantisme, votre féminisme plutôt, et votre pratique? Est-ce que ça fait partie des discussions qui ont encore lieu dans votre journal et sans doute ailleurs?
Non, pas tellement, mais ça se joue un peu autrement, c'est-à-dire qu'on a quand même souvent tendance à ghettoiser les personnes qui portent ces sujets comme étant des personnes qui portent ces sujets. Donc forcément, on n'est quand même pas tout à fait comme les autres.
Comme si c'était encore un sujet de, une affaire de bonne femme, quelque chose de, un sujet de niche, sans en comprendre encore une fois la portée.
Ouais, ça reste un sujet de niche. J'exagère un peu en disant ça. C'est pas tout à fait un sujet de niche. C'est quand même, la prise de conscience, elle est quand même beaucoup plus importante que ce que je dirais si je disais que c'était un sujet de niche. Et qui considère ça comme un sujet de niche, mais quand même, il y a quand même l'idée que je suis forcément moins imprégnée de ces lunettes-là, et que et visiblement ces lunettes-là, tout le monde ne les porte pas.
Vous avez travaillé en 2014 et en 2020 avec le collectif Prenons la Une. Vous en avez fait partie. On parlait il y a quelques minutes avec Salomé Saquet de l'importance du collectif. Qu'est-ce que Prenons la Une a pu faire bouger?
Je crois que ça a été très important, notamment sur la question de nommer les choses. Ça a été très crucial de faire des adresses aux rédactions en leur disant voilà, arrêtez de parler de drames, de crimes passionnels, arrêtez de mal qualifier les mots, arrêtez de parler de victimes présumées. Alors après, quand MeToo a déferlé, on a quand même recensé un nombre extrêmement impressionnant de victimes présumées dans les articles. Alors que ces recommandations existent, mais encore une fois, tout ça a quand même mis du temps. Et je crois que leur travail sans relâche pour faire porter ces sujets-là est important et quand même porte un peu ses fruits. Il faut quand même le dire.
Oui, parce que parfois il faut des chartes, effectivement, il faut des préconisations. Et on va écouter le témoignage de Pilar López-Diez, qui est journaliste espagnole, docteur en sciences de l'information. Elle est l'autrice du protocole pour l'action journalistique sur l'égalité des chances, qui a permis une avancée spectaculaire de la façon de traiter l'information en Espagne et dans les pays d'Amérique latine. Mais Pilar López-Diez, vous allez l'entendre, qui est engagée dans les mouvements féministes depuis les années 70, veut continuer à avancer et aller vraiment le plus loin possible.
¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos seguir haciendo?
Que devons-nous faire? De quelle façon allons-nous continuer à faire des guides pour que de nouvelles promotions de journalistes respectent les notions d'égalité entre hommes et femmes?
Esos derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Bien.
Je pense qu'il est absolument nécessaire, mais aussi honnête et courageux, de dire qu'il faut arrêter de parler des femmes victimes de violences masculines. Ce que les médias doivent faire en la matière, tous les médias, c'est se concentrer sur les hommes. Pourquoi ? Parce que le problème que nous devons dénoncer dans nos articles, le sujet actif du phénomène de violence, ça n'est pas la victime qui est le sujet passif, non. C'est l'homme qui attaque, qui viole, qui va même jusqu'à tuer là où les femmes, qui ne font pas ce qu'il croit qu'elles doivent faire. En fait, le problème vient du patriarcat qui construit la masculinité et la féminité sur la base d'une différence absolue et sur la base du pouvoir de la masculinité. La sexualité masculine est basée sur le plaisir masculin.
Desde los medios de comunicación.
Par conséquent, nous devons nous concentrer sur l'importance à souligner qu'il n'y a aucune raison d'humilier, d'abuser, d'attaquer, de violer, de tuer une femme parce que l'homme essaie d'obtenir son plaisir. Voilà ce qui doit être considéré et pris en compte dans les prochains guides pour journalistes qui sortiront sûrement à travers le monde.
Pilar López-Diez, une interview réalisée depuis les studios de la radio-télévision espagnole. C'était une traduction d'Emma Delaunay.
Nos voisins espagnols sont très en avance sur la question des violences de genre. On sait les politiques mises en œuvre de l'autre côté des Pyrénées, on sait leur efficacité. Et là-bas, on l'a entendu à l'instant, on parle depuis très longtemps de violences masculines. En France, on en a encore aux violences faites aux femmes. Est-ce que pour vous, Johanna Luisen, c'est un switch qu'il faudra absolument faire?
Il est absolument crucial, effectivement, elle a tout à fait raison, on ne parle pas assez des hommes comme auteurs des violences. et on n'investigue pas assez, on n'explore pas assez ce champ-là journalistiquement. Et je pense que c'est un des gros chantiers sur le sujet.
Ouais. Ça raconterait quoi ? Pourquoi là-dessus, ça coince encore ? Pourquoi on n'y arrive pas ?
On n'y arrive pas parce que je pense qu'on sait très bien qu'on se heurterait à une résistance très très importante et à des choses extrêmement violentes en face. Quand vous commencez à parler de sujets, par exemple quand vous commencez à parler de masculinisme par exemple, ça peut être très très compliqué. Quand vous commencez à parler de sujets qui peuvent un peu fâcher, ça fait très mal. Quand Alice Coffin sur un plateau télé dit que bah effectivement quand on est en couple, il y a des risques d'être victime de violence ou voire d'en mourir en fait. Elle a tout à fait raison sur le fait, mais en fait elle se prend une déferlante d'insultes, voilà. Donc en fait il y a une vraie résistance à évoquer ces sujets-là, alors que en vérité il y a beaucoup de choses qui sont très peu connues aussi en termes de violence masculine. Je prends un petit exemple, mais c'est la question qui émerge depuis quelque temps, c'est la question des violences vicariantes. On commence à nommer dans les articles que les violences vicariantes, donc quand dans le cadre de violences conjugales un homme s'attaque aux enfants. Et donc, il peut incester ou même s'en prendre physiquement, voire tuer des enfants pour faire du mal par procuration à son ex ou à sa conjointe. Ça fait peu de temps qu'on nomme ces choses-là, mais c'est un nouveau, c'est quelque chose qui est dans le panel des violences, mais qui n'est une réalité qui existe en vérité, qu'on connaît si on suit ces sujets-là, mais qui est pas nommée. Et il faut continuer, il faut nommer ces choses-là pour montrer le panel des violences pour pouvoir après les traiter.
Merci beaucoup. Merci. Johanna Luyssen. Merci aussi, Souad Belhadad.
Un grand merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE qui ont pensé et organisé cette journée et à sa présidente, Agathe Hamel. Les 4 épisodes de Femmes et Médias sont à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Présentation, Julia Foyce et Benoît Bouscarel. À la réalisation, Francisque Brémond et Sébastien Morvan de Longue Porteuse et Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coué et Alexandre Langevin.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Une production Longue Porteuse.
Musicale sur Canal B dans De Boules Vanille, on écoute le groupe marseillais La Flemme avec son titre Mer Azur.
Personne à l'horizon pour noyer.
Mer Azur de La Flemme sur Canal B dans Debout le Vanille. Chaque année, les étudiants et étudiantes en Master 2 Journalisme, Reportage et Enquête de Sciences Po Rennes élaborent une série documentaire en 5 épisodes diffusée sur Canal B dans les émissions spéciales. Pour cette édition 2025, je leur ai demandé de travailler sur la démocratie. Camille Curnier et Lynne Baudrier se sont intéressées à la démocratie à l'épreuve du sexisme. Car si les femmes ont le droit de vote depuis 80 ans, elles sont aussi éligibles, mais là, c'est une autre affaire.
Démocratie.
La France, c'est ce que l'on appelle une république démocratique.
Où est la démocratie, mes chers collègues?
Non, la France n'est plus une démocratie, là on fait tous semblant.
C'est encore une fois surtout un régime en perdition.
Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil.
La République, c'est moi!
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Une réforme des retraites maintenue envers et contre tous.
Un déferlement de 49-3.
La chaise vide de Matignon pendant la trêve olympique.
La France, pays des droits de l'homme, est qualifiée de démocratie défaillante.
Mais qu'en est-il vraiment?
Les gouvernements cultivent la politique de l'autruche face aux mobilisations.
Pendant que la répression policière étouffe la voix du peuple.
Contraints de trouver d'autres modes d'action, les militants écologistes désobéissent pour se faire entendre.
La défiance des citoyens envers ses représentants fait la courte échelle aux théories du complot.
Le monde politique, qui dresse barrières et obstacles aux femmes, demeure un royaume masculin.
Alors, manifester sert-il encore à quelque chose?
La désobéissance civile est-elle le dernier recours du peuple pour sauver la planète?
Une démocratie sans maintien de l'ordre est-elle imaginable?
Comment le complotisme attise-t-il le chaos politique?
Pourquoi les institutions démocratiques ferment-elles leurs portes aux femmes?
Immersion dans les entrailles de notre démocratie pour en comprendre les dérives.
Démocrache, une série documentaire en 5 épisodes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes.
En 1945, en Ille-et-Vilaine, Germaine Marquet devient l'une des premières femmes élues maire. 1974, Arlette Laguillé marque l'histoire comme la première candidate à l'élection présidentielle. 1991, on hésite encore. Doit-on dire Madame la Première Ministre pour Edith Cresson? 2022, Yaël Braun-Pivet accède au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais une question demeure, quand les femmes en politique dépasseront-elles enfin le stade des premières fois?
Je suis pas une poule, hein, c'est bon?
Magnifique question de Laurent Ruquier. Mais vous, Madame Pécresse, avec qui vous avez couché pour en arriver là?
Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
Elle représente 52% de la population française. Pourtant, pendant près d'un siècle, la vie politique ne fonctionnait qu'au travers des idées masculines. Quand la moitié d'un peuple n'est ni écoutée, ni représentée, peut-on vraiment parler de démocratie? Aujourd'hui, les femmes sont encore minoritaires dans les instances du pouvoir. 36% sont députés, seulement 20% sont maires. Tel est le constat. Alors, comment cette mauvaise représentation impacte-t-elle notre démocratie? À la recherche des femmes, dans cet empire masculin qu'est la politique, vous écoutez Sans état d'âme, un épisode présenté par Camille Curnier et Lynne Baudrier.
Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'homme et voix de femme.
Reflétant des débats enflammés et des sentiments contradictoires, la marche vers l'égalité politique entre hommes et femmes n'a jamais été un long fleuve tranquille. En 1944, c'est enfin au tour des Françaises de se voir offrir le droit de vote. Le suffrage n'est plus seulement masculin, mais devient réellement universel. Il aura fallu attendre 96 ans pour que les hommes politiques daignent leur accorder un peu de pouvoir.
Ordonnance du 21 avril 1944, article 17. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.
Écrit noir sur blanc, ces mots ne laissent plus de place au doute. Voter oui, mais accéder au pouvoir est une autre histoire. La sociologue Janine Mozus-Lavaux, chercheuse au CEVIPOF, un laboratoire de recherche de Sciences Po Paris, nous a ouvert la porte de chez elle pour en discuter.
L'ensemble de la classe politique n'est pas
enthousiastes à l'idée de leur donner de plus en plus de place. Si vous avez un homme politique qui est là depuis, 10 ans, 20 ans, et puis que le parti décide de présenter beaucoup plus de femmes, le mec, il va pas accueillir à bras ouverts en disant « oui, je lui laisse ma place, j'ai chauffé la place depuis 10 ans, je vais bien sûr lui donner avec le plus grand plaisir, et puis je vais aller planter mes choux ailleurs ».
On l'aura compris, tant que les hommes ne leur ouvrent pas la porte, les femmes peinent à se frayer un chemin. Ce qui semblait être enfin considéré comme un droit fondamental en démocratie s'est peu à peu transformé en sujet de controverse. La femme n'est perçue que par son genre, son ventre, sa maternité, bref, être une femme à cette époque, c'est avant tout être mère. On la préfère à la maison plutôt qu'en politique, on l'estime à la cuisine plutôt que dans l'hémicycle. Ces codes masculins obligent les femmes à se contorsionner pour entrer dans un moule qui n'est pas façonné pour elles.
C'est les hommes qui ont commencé à créer le système et le mode de fonctionnement. Et ils travaillent la journée, donc les réunions, c'est le soir, c'est le week-end. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, qui d'ailleurs travaillent aussi, mais rentrent s'occuper des enfants, de la maison et le week-end, pareil. C'est compliqué de participer, de pouvoir avoir un rôle politique effectif, important. C'est une activité qui a été pensée au départ, puisqu'elle était exercée que par des hommes, pour des hommes.
Dans la cour du palais, M. Édouard Herriot, président du Parti radical. M. Louis Marin. Et puis des femmes, des communistes et des socialistes.
Et puis des femmes. Voilà comment étaient présentées en 1945 les 33 premières femmes élues députées. Dans les années 60, après 16 ans d'éligibilité, les femmes n'occupent que 2% des sièges à l'Assemblée nationale. Le changement est lent. Beaucoup d'élus rechignent encore à accepter leurs collègues féminines. Et puis il y a ceux qui surfent sur la vague pour soigner leur image.
En 67, Mitterrand voulait apparaître comme le candidat qui présentait des femmes. Donc pour les élections de 1967, il avait décidé, parce qu'il fallait changer l'image, il fallait montrer qu'on bougeait et tout, de présenter dans certaines circonscriptions des jeunes femmes. Mais ils les ont présentées dans des circonscriptions ingagnables. Donc les circonscriptions perdues d'avance, on y envoyait directement les femmes.
Cette manœuvre politique, utilisée par l'ancien président socialiste, s'appelle la falaise de verre. En période de crise, les partis ont tendance à envoyer les femmes au casse-pipe. On leur donne des postes habituellement inaccessibles et la plupart sont voués à l'échec. La falaise de verre, c'est aussi ce qui a caractérisé l'élection présidentielle de 2022. Le Parti socialiste et les Républicains nomment Anne Hidalgo et Valérie Pécresse en tête de liste. Aucune chance de gagner, les deux candidates font un score particulièrement faible. Mais revenons un peu en arrière. Puisque jusque dans les années 90, il n'était pas aussi facile de présenter des femmes aux élections. Le bilan est clair, les femmes sont sous-représentées et la lutte féministe s'empare du sujet.
Là, il fallait qu'il y ait une obligation et une loi contraignante, c'est-à-dire une loi avec des pénalités si elle n'était pas respectée.
Alors, en 1992, Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall publient « Au pouvoir citoyenne, liberté, égalité, parité ». Un livre choc. Pour la première fois, le terme de parité est proposé au grand public. Bon nombre d'hommes politiques accusent le coup. Si la présence des femmes dans cette arène est en léger progrès, pour la droite et le centre, ce n'est pas une priorité. L'idée suscite pourtant très vite l'engouement des femmes. Des associations se créent, d'autres se réactivent, et nombreuses sont les militantes qui se rallient à la cause avec pour seul but la parité. Assurer aux femmes le même nombre de sièges qu'aux hommes dans les institutions, c'est ce qu'on appelle la parité. En 1996, deux femmes marquent cette lutte. Roselyne Bachelot, alors membre du Rassemblement pour la République, et Gisèle Halimi, célèbre avocate. Ensemble, elles se font porte-parole de ce combat politique.
Article 3 de la Constitution de 1999. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Mairie, conseils départementaux, Sénat ou Parlement européen, sur les listes, les partis politiques doivent faire moitié-moitié. Cette loi parité, Solène Lemonnier, conseillère municipale à Béric, dans le Morbihan, en a profité.
Pourtant, aujourd'hui, elle regrette que cette évidence d'égalité n'aille pas de soi.
Je pense qu'il est dommage de devoir passer par une loi et de devoir imposer que les femmes s'engagent. Le fait de devoir l'imposer pose un souci, parce qu'une fois que c'est imposé, c'est une contrainte. Et ensuite, énormément de femmes qui sont entrées au niveau local se sentent femmes quota.
Pour beaucoup d'hommes déjà bien installés en politique, il a fallu apprendre à faire de la place sur les listes électorales. En quelque sorte, on leur a forcé la main. Mais voilà le hic. Au lieu de chercher des femmes pour leurs compétences, on les choisissait parfois juste parce qu'elles étaient des femmes. Résultat, une mesure censée promouvoir l'égalité a parfois produit l'inverse, et certaines femmes se sont alors retrouvées étiquetées comme des femmes quotas.
Et puis, pour s'assurer que la parité soit respectée, des sanctions sont prévues. Les partis qui présentent alors moins de femmes que d'hommes peuvent dire adieu aux aides financières de l'État. Une bonne idée sur le papier, même si certains achètent le droit de contourner la loi, et ça, c'est tout sauf une avancée. C'est ce qu'explique Gisèle Halimi en 2009.
Il suffit d'être un parti riche, comme l'UMP par exemple. L'UMP a payé 5 millions d'euros d'amende, moins prenant, parce qu'il n'a pas respecté la parité. C'est-à-dire, c'est même un peu irréel. Voilà ceux qui font la loi, qui disent « je paye ». Je me paye des candidats hommes, même si la loi m'a dit qu'il fallait des candidats femmes, et vous n'avez rien à dire.
24 ans après l'instauration de ces amendes, la facture est salée. En 2024, le parti Les Républicains, le Parti Socialiste, Horizon ou encore le Rassemblement National ont tous mis la main à la poche pour contourner la parité. Les pénalités prouvent leur raison d'être, mais illustrent tout de même une absence d'évolution. L'idée de parité a encore du chemin à parcourir.
Faire des lois, c'est bien, mais aller faire un constat une fois que la loi est appliquée pour voir si elle fonctionne, s'il n'y a pas d'ajustement, je pense que c'est essentiel et aujourd'hui, il y aurait réellement une nécessité à le faire.
La parité est loin d'être imposée partout. 208 femmes sur les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, c'est bien moins que la moitié. Les partis politiques accusent l'urgence législative de juillet dernier. Une campagne éclair à mener, disent-ils, et donc pas le temps de se préoccuper des femmes. Défaillance dans le cœur du réacteur, bien loin d'être paritaire, l'hémicycle enraye les rouages démocratiques.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
Nommé le 27 septembre 2024, le gouvernement Barnier est un cas d'école. Sur les ministres, seules 8 femmes ont été nommées, sans qu'aucune d'entre elles n'occupe de portefeuille régalien. Reflétant nos vieux travers historiques, les femmes continuent d'être cantonnées à des fonctions considérées comme moins stratégiques et souvent associées à des ministères dits féminins, comme l'éducation, la santé ou la culture. Une situation vécue à toutes les échelles du pouvoir démocratique.
Il y a ce petit côté un peu protecteur où on va essayer de faire plaisir et on va se dire bah, c'est là qu'elle va s'épanouir, donc c'est là que je vais la mettre. Sans forcément poser la question de savoir si c'est vrai. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation, hein, comme beaucoup de mes collègues. On m'a placée à la jeunesse tout de suite, aux affaires scolaires. Mes collègues hommes étaient aux travaux. Et c'est assez compliqué parce que bah, moi, j'arrive, je suis jeune, je suis moderne, je suis à 10 000 km de penser que ça allait poser problème que je sois une femme.
Le vrai problème, ce n'est pas d'être une femme, mais plutôt la façon dont elles sont considérées par l'autre sexe. De peur qu'elles soient moins compétentes ou moins pertinentes, les hommes politiques ont cette fâcheuse tendance à les discréditer.
C'est déjà arrivé que je dise quelque chose, on va me reprendre et puis me reprocher ce que j'ai dit, et puis un homme va reformuler exactement ce que je viens de dire, et là ça passe.
Imaginez, on vous coupe la parole, on reformule vos idées d'un ton condescendant, ou pire, on vous les vole. Le féminisme anglo-saxon appelle ça le man-interrupting ou le mansplaining. Le milieu politique est censé être celui du débat démocratique où chacun, chacune peut s'exprimer librement. Mais aujourd'hui, il reste surtout le terrain du pouvoir et des rapports de domination. Alors dans un espace aussi hostile, avant que cela ne change, ce sont les femmes qui s'adaptent.
On a encore cette étape à franchir de se faire accepter, d'être légitime à exercer le mandat, quel que soit le mandat, et surtout... C'est compliqué de faire accepter qu'on a, nous aussi, des compétences, puis de faire accepter aussi qu'on puisse jouer un rôle. Certaines ont du mal à s'imposer et vont choisir la démission. D'autres vont réussir à s'imposer, mais souvent, malheureusement, pour s'imposer, elles vont utiliser les codes des hommes qu'elles reprochent justement d'utiliser. Oh,
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez Sans état d'âme, épisode 5 de la série Démocrash, réalisée par les étudiants et étudiantes en master journalisme de Sciences Po Rennes. Dans les allées du Palais Bourbon, les bustes féminins se font rares. Ici, seuls les hommes ont le droit à leur statue. Pourtant, certains sont inconnus au bataillon. À l'exception de nombreuses allégories de Marianne, aucune femme renommée n'a reçu un tel hommage. Il a fallu attendre 2016 pour que le visage d'Olympe de Gouges fasse son entrée sur les murs de l'Assemblée nationale. À quelques pas de là, nous sommes allés rencontrer une ancienne collaboratrice parlementaire. Fiona Texer, fondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, connaît bien ces couloirs.
Quand vous demandez à quelqu'un, imaginez ce que c'est un élu. La personne en face de vous va spontanément avoir une image qui va représenter un homme plutôt 50-60 ans, plutôt blanc, plutôt en costume avec éventuellement une cravate, plutôt avec une grosse voix et des grosses mains qui va serrer des grosses paluches. Et ça, c'est pas caricatural de le dire, parce qu'en fait, ça, c'est le portrait robot d'un élu aujourd'hui. Et on valorise celui qui aura la poignée de main facile et celui qui sera tribun. Il n'y a même pas de féminin pour tribun dans notre langue.
La masculinité hégémonique, c'est l'idéalisation d'une représentation stéréotypée de ce que doit être un homme. Force, assurance, dominance vont alors créer un environnement politique viril auquel les femmes doivent s'assimiler. Chacune y développe sa propre stratégie d'adaptation, et si une minorité choisit d'affirmer son identité féminine, les autres, au contraire, s'adaptent au code du milieu.
Je sais pas, Angela Merkel ou Margaret Thatcher, par exemple, on ne peut pas dire que ce sont des femmes qui incarnent une vision du féminisme en politique. Elles incarnent comment une femme réussit à conquérir le pouvoir comme un homme, en fait.
Il y a des noms de parlementaires qui circulaient entre collaboratrices parce qu'on savait qu'il fallait pas prendre l'ascenseur avec eux.
Parce qu'il se passait quoi ?
Parce qu'il y avait un risque qu'ils vous collent une main aux fesses, qu'il y avait eu des histoires.
Les violences sexistes et sexuelles s'immiscent dans toutes les strates de la société et la politique n'échappe pas au virus. L'étude de 2021 du collectif Élu Local le montre bien. Sur 1000 femmes élues interrogées, 74% ont déjà vécu ce type de violence au cours de leur mandat. Et ces comportements ne datent pas d'hier. Depuis 1945, le sexisme structure les relations politiques. Ça va de la remarque sur la tenue d'une élue, au harcèlement, jusqu'au viol. Tout l'éventail des violences y passe.
Dans les années 70, Michèle Alliot-Marie s'était fait refouler de l'hémicycle parce qu'elle portait un pantalon. Moi je me suis fait virer d'hémicycle parce qu'une fois j'ai mis un jean. C'est des choses qui n'arrivaient pas. Pas à nos collègues masculins. Il y a une passion pour critiquer le vêtement féminin sur tous ses aspects. Et si on en revient à Cécile Duflo, elle est en robe à fleurs, on la critique. Elle est en jean, on la critique. Ça n'est jamais bien, ça n'est jamais comme il faut.
Mais loin de son apparence physique et de cette fameuse robe à fleurs qui a tant fait parler d'elle, Cécile Duflo a aussi dû travailler sur un autre front, sa voix. Moquée et jugée irritante parce que trop aiguë, l'ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts a engagé un spécialiste pour gommer ce qui était présenté par certains comme des défauts d'intonation. Il fallait se conformer à cette stature qu'on attendait d'elle, celle d'une femme d'État, celle d'une femme plus présidentiable. Et si la voix compte autant en politique, c'est parce que certaines sont naturellement plus convaincantes, plus attractives et inspirent puissance et prestige. Mais voilà, aux grandes dames de celles et ceux qui briguent l'Élysée, tout le monde ne joue pas sur la même longueur de corde. Un obstacle de plus qui s'ajoute à un paysage politique déjà peu accueillant. Ce cercle vicieux fait du tort au débat démocratique. Sans femmes dans les institutions, à quoi ressemblerait l'agenda politique ?
On est face à une majorité d'hommes qui sont peu concernés par les problématiques qui, pour eux, sont en gros des sujets de gonzesses. Il y a un problème démocratique qui est fondamental, c'est que les assemblées, que ce soit au niveau local ou national, surreprésentent les hommes. Les problématiques perçues comme féminines, et qui touchent 52% de la population, sont sous-traitées, en fait.
Prenons un exemple récent. Les débats de février 2024 sur la constitutionnalisation de l'IVG au Sénat. Au départ, beaucoup de sénateurs étaient réticents. Il leur a fallu un coup de pouce. Leurs mères, leurs filles ou encore leurs épouses ont su les convaincre de l'importance du sujet. Résultat, le Sénat a voté pour.
Votant 339 pour 267
contre 50, le Sénat a adopté.
Mais ce sont encore les femmes qui ont dû batailler pour que ce qui les concerne soit pris au sérieux par la gente masculine. Une démonstration parfaite d'une démocratie incomplète.
Parce que la démocratie, elle ne peut pas être achevée tant qu'il n'y aura pas une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais c'est l'affaire de la politique comme c'est l'affaire de la société tout entière. Mais là où la politique a une responsabilité particulière, c'est dans son rôle de moteur de la société, de devoir créer un cadre normatif, réglementaire, et même de penser, en fait, où on valorise l'égalité, et en fait d'avoir un effet d'entraînement.
Rennes n'est pas une ville comme les autres. Ici, on dit Madame la maire. C'est suffisamment rare pour être souligné. À la tête de la ville, Nathalie Appéré, qui entame déjà son deuxième mandat, incarne une ascension politique plutôt fluide, sans trop d'embûches. Une exception qui confirme la règle.
On a rendez-vous avec Madame Letourneux ?
Oui, je vous laisse pas chanter.
Bien sûr.
Je vous accompagne ensuite. D'accord.
Merci.
Malgré plusieurs tentatives de notre part, impossible de rencontrer Madame Appéré. Alors, c'est dans le bureau de Geneviève Letourneux, élue chargée du droit des femmes et des luttes contre les discriminations pour la ville de Rennes, que nous avons posé notre micro.
De ce que j'ai pu voir de près, par exemple quand Nathalie Appéré a été candidate en 2014, la question du fait qu'elle soit une femme, je ne l'ai entendue nulle part. On ne s'est jamais dit « ça va être un handicap ». Qu'elle ait, par contre, dans son parcours, eu à subir du sexisme, de la misogynie, oui, bien sûr.
Nathalie Appéré a connu presque toutes les cases de l'engagement politique local. Conseillère municipale, adjointe au maire, députée, jusqu'à accéder à la place de maire. Une ascension qui témoigne d'une crédibilité forgée sur le terrain au fil des années. Et cette position particulière de femme maire n'est pas anodine. Elle compte, elle marque. Qu'on partage ou non ses idées, Nathalie Appéré incarne un modèle de réussite féminine dans le paysage politique français. Avoir des rôles modèles féminins est essentiel, cela donne des points de repère, ça éveille la curiosité et ça montre aussi que d'autres peuvent réussir dans des métiers souvent perçus comme masculins.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. »
Un message fort qu'Elisabeth Borne, elle aussi, avait défendu dès son discours de nomination. Car c'est exactement ce rôle que la politique et notre démocratie doivent jouer. Inspirer, ouvrir la voie et prouver que la place des femmes est partout.
La démocratie, c'est quand même bien comment on met en œuvre cette égale participation des citoyens et des citoyennes dans ce collectif. Si on ne se pose pas les questions d'égalité, eh bien on risque de creuser les fossés qui existent au sein de la population. Il ne suffit pas d'ouvrir des cadres de participation pour résoudre le fossé démocratique.
Autrement dit, ouvrir davantage la porte pour les femmes en politique ne suffit pas. Il faut pousser le curseur un peu plus loin. À Rennes, ils l'ont mesuré, le temps de parole dans les conseils municipaux est à peu près égal entre femmes et hommes. Une réalité facilitée par la présence d'une femme au poste de maire. Cellule d'alerte contre le harcèlement et les violences sexuelles, consultation citoyenne féminine ou encore aide à la garde d'enfants pour les employés de la mairie, la ville de Rennes se fait bon élève.
Mon credo, c'est que la parité ne suffit pas à garantir l'égalité. Il y a une culture de l'égalité qui doit remplacer la culture de la domination. Et donc c'est aussi pour ça que le féminisme est important. C'est qu'il apporte dans le champ de la politique, de la démocratie, de ce qu'est le pouvoir, de l'exercice du pouvoir, il apporte des questionnements qui sont très utiles quand on se pose la question de la démocratie.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
S'appuyer sur la société civile, notamment militante et féministe, c'est un levier essentiel pour avancer. Les associations peuvent apporter des solutions concrètes et inspirer le politique, parfois déconnecté de la réalité du terrain. Monde associatif et monde politique doivent travailler main dans la main. Mais l'objectif ne s'arrête pas là. Le statut de femme n'est pas garant de la bonne santé démocratique. Ce qu'il nous faut, ce sont des femmes élues, engagées, portées par des valeurs d'égalité, et des hommes capables de reconnaître et de respecter pleinement la contribution des femmes à la vie politique.
Moi, je pense qu'il faut se méfier énormément de l'essentialisation. C'est pas parce que il y a des femmes que ça sera nécessairement ni plus féministe ni plus juste. Donc c'est très dangereux. C'est, les femmes ne sont pas par essence plus douces, plus démocrates.
Claudia Sheinbaum au Mexique, Atla Thomasdottir en Islande, Maya Sandu en Moldavie, Droupadi Murmu en Inde. En 2024, toutes ces femmes sont présidentes. Elles sont 36 à être à la tête du pouvoir dans leur pays. 17 sont élues chefs d'État et 19 dirigent un gouvernement. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir à compter ces femmes qui ont réussi à se faire une place. Pourtant, on en est toujours là. La démocratie en est à un stade déterminant et malgré les avancées, son principe fondamental d'égalité reste à bout de souffle. Combien de temps faudra-t-il encore pour qu'une femme accède à la présidence en France ?
Si demain, on doit avoir une présidente femme, là tout de suite, dans le visage politique actuel, il y en a très peu qui ressortent du lot. Très très peu, elles sont moins d'une dizaine.
Les conseils sont tout à fait favorables, mais une Simone Veil, il n'y en a pas, on n'en trouve pas tous les jours sous le paillasson. Hein.
Je crois que le sujet, ce n'est pas de savoir si on aura une femme présidente de la République, le sujet, c'est de savoir si on aura une femme féministe présidente de la République un jour.
C'était Camille Curnier et Lynne Baudrier dans Sans état d'âme, le dernier épisode de la série documentaire Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes. Les 5 épisodes de cette série sont à retrouver sur le site internet de Canal B. Dans cet épisode, vous avez pu entendre un témoignage de Valérie Pécresse pour Marie-Claire, des extraits du journal Les Actualités Françaises de 1945 de Lina, Michel Barnier et Véronique Massonneau sur LCP, une interview de Gisèle Halimi sur France 2, Bernard Larcher et Laurence Rossignol sur Public Sénat, une interview de Marine Tondelier pour Lina et un extrait du discours d'investiture d'Elisabeth Borne. Vous avez peut-être reconnu The Beginning de Flawed Mangos, Respect d'Aretha Franklin, Fast Forward de Chloé Thévenin, Awake de Tichot, Invisible de Sofiane Pamar et NTO, Flawless My Dear de Chris Bowers et enfin Brain Sales de Tom Sebums. Le générique de la série Démocrache est composé d'un extrait de Data Gueule, d'un épisode de C'est pas sorcier, d'un discours de Clémentine Autain à l'Assemblée nationale, d'une interview de Yves Lambert sur RTL, d'une citation d'Emmanuel Todd dans Ses politiques, d'épisodes de la série Kaamelott, d'une célèbre réplique de Mélenchon, d'une interview de Le Bolloc sur Sud Radio et de Pierre Rosanvallon pour Quotidien. Vous avez aussi pu entendre Her Friend's Origin de Rebecca Warrior et La Folia de Vivaldi.
Le vanille, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Je sais pas.